témoignage d'Écossais,
Stéphane de Mazur, Christian Mercier.
Ce qui est très compliqué pour un maçon, pouvoir arriver à se dire que la musique est plus puissante que les mots.
Nous avons choisi de vous présenter cet entretien en deux parties. En voici la première.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Témoignages écossais consacré aujourd'hui à une pratique et à un art dont les origines remontent à la nuit des temps et pourraient même coïncider avec l'apparition de la parole. Cet art qui rythme nos jours et nos nuits est diversement apprécié par nos frères et sœurs pratiquant le rite écossais ancien et accepté, notamment au sujet de sa présence lors de nos tenues. Pour certains, il y est indispensable, pour d'autres, il doit être réservé à la sphère privée et à l'appréciation personnelle. Vous avez tous bien évidemment deviné quel est notre sujet d'aujourd'hui. Notre invité est la musique. Et pour nous en parler, nous avons convié au micro de Témoignages écossais une éminente musicologue, sœur du droit humain, dont une des récentes heures de gloire fut de faire chanter en chœur l'année dernière à Clermont-Ferrand près de 500 congressistes participant aux rencontres écossaises. Nicole Desgranges, bonjour.
Bonjour.
Alors avant d'entamer notre échange avec Nicole, je souhaite faire part à nos auditeurs d'une réaction que nous avons reçue suite à notre dernier podcast consacré aux rencontres écossaises justement. Elle nous vient d'un très illustre frère de la région Midi-Pyrénées qui nous rappelle que nous aurions dû évoquer parmi les pères fondateurs des rencontres écossaises notre très illustre frère Jean-Pierre Lassalle, ancien ministre d'État du Saint-Empire, dont le rôle fut majeur lors de la création de cet événement. Pour cela, je me tourne vers Claude Guichard, grand secrétaire général, qui devient d'ailleurs un habitué de notre émission. Claude Guichard, bonjour.
Bonjour.
Pour faire avec lui donc notre mea culpa auprès de Jean-Pierre Lassalle et évoquer son rôle en quelques mots.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour Nicole, bonjour à tous les auditeurs et merci surtout à notre fidèle auditeur qui nous a fait remarquer que effectivement nous étions passés un petit peu vite sur des acteurs importants des rencontres écossaises. Nous nous sommes focalisés sur les débuts des rencontres, alors c'est vrai que sont arrivés, je dirais logiquement à notre esprit, les noms de Yves Morand, le nom de Henri Barranger, etc. Et nous n'avons pas évoqué celui de Jean-Pierre Lassalle et je reconnais que c'est une erreur. Parce que Jean-Pierre, d'ailleurs, nous avions consacré en 2017 un numéro de parole à un entretien qu'il nous avait accordé concernant les rencontres écossaises. Et Jean-Pierre Lassalle a été un acteur extrêmement important puisqu'il a été président des rencontres entre 2010 et 2017. Mais surtout, il a accompagné un changement important au sein des rencontres écossaises. D'abord, le changement du nombre, puisque nous sommes passés d'à peu près 150, 200 congressistes à environ 500 congressistes pendant sa présidence, qu'il a ouvert et a été un homme d'ouverture, c'est-à-dire que il a favorisé parmi les participants à des intervenants et des interventions extérieures à la maçonnerie. Il a favorisé l'arrivée de congressistes appartenant à d'autres juridictions et à d'autres suprêmes conseils. Donc il a accompagné tout ça. C'était un homme de lettres, c'était en fait un homme de culture et l'ouverture pour lui voulait dire quelque chose. Voilà ce que je voulais souligner. J'espère que cet oubli a été réparé. Encore une fois, merci à cet auditeur attentif et j'en profite pour saluer Jean-Pierre Lassalle. Pour saluer nos frères de Midi-Pyrénées et tous nos auditeurs.
Merci Claude pour cette rectification absolument nécessaire au sujet de notre frère Jean-Pierre Lassalle. Nicole, revenons maintenant à notre sujet musical. Et tout d'abord, justement, j'insiste, quel souvenir gardes-tu de cet incroyable moment de partage et d'unisson à Clermont-Ferrand? Ça nous a tous marqués. Un an après, on en parle encore. Ce n'était pas gagné de faire chanter cette assemblée d'habitude sage et studieuse.
Justement, non. Pour moi, c'est un moment parmi d'autres, puisque je suis chef d'orchestre et chef d'orchestre. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour ma part, faire chanter, c'est mon métier. Donc, c'est une pratique qu'on a l'habitude. En fait, savoir provoquer quelque chose, c'est le métier des musiciens. Et c'est en fait en ça où ça peut-être pose problème pour des maçons. Et c'est vrai, par contre, vous, dans la salle, j'étais d'abord surpris parce que vous y attendiez pas. Du coup,
je confirme, j'y étais.
C'est en même temps une certaine, je dirais, entre guillemets, manipulation de ma part. C'est-à-dire, vous obligez à rentrer dans quelque chose où c'était pas prévu et du coup, vous avez adhéré sans trop vous poser de questions. Et puis, si en même temps, c'était désarçonnant, je pense pour vous, parce que tout d'un coup, c'était mettre en place un rapport avec le corps avec la voix chantée qui extériorise des sentiments, des états d'âme. On dit qu'il n'y a rien de plus difficile de chanter. Par rapport à votre quotidien, qui est en particulier en tenue d'utiliser la voix parlée et d'être dans une espèce de contrôle d'un langage parlé, codifié, verrouillé. Et tout d'un coup, je vous ai demandé d'aller dans des émotions, dans quelque chose qui a suscité tout de suite votre adhésion et ensuite vos interrogations, je crois.
Absolument, je te dis, hein, on en parle encore.
Eh bien, il paraît.
Alors Nicole, pour compléter ta présentation, tu as été maître de conférences en musicologie à l'université Marc Bloch de Strasbourg. Tu es une spécialiste de la musique baroque et classique, et en particulier des relations entre musique et franc-maçonnerie. Et enfin, tu es docteur S musicologie de l'université Sorbonne Paris 4. J'ajouterais que tu es également professeur agrégé d'éducation musicale et de chant choral, et tu es toi-même chef d'orchestre, chef de chœur et claveciniste professionnel. Alors avec un CV pareil, Christian et moi nous sommes dit que tu étais la parfaite invitée pour nous parler aujourd'hui des rapports entre musique et franc-maçonnerie et surtout pour briser tabous et idées reçues à son sujet quant à sa pratique en loge, par exemple. Et j'en profite pour saluer Christian, co-chef d'orchestre de Témoignages écossais et grand mélomane devant l'Éternel. Christian, bonjour.
Bonjour Stéphane.
Et quelles questions souhaiterais-tu poser à notre invité pour entamer nos échanges ?
Avant de poser une question, je voudrais dire que le mélomane, c'est comme l'adepte des loges symboliques. Il lui faut se perfectionner par un parcours ultérieur. Parce que s'arrêter en loge symbolique, c'est peut-être un peu dommage, surtout en manière de musique.
Absolument.
Alors peut-être la question que je voudrais poser à Nicole, elle est simple. Je dirais, j'ai une certaine expérience maçonnique et d'avoir entendu nombre de planches, pour ne pas dire de travaux, parfois tellement ils sont pesants, sur la flûte enchantée, etc., etc., etc. Est-ce que l'on ne pourrait pas s'intéresser un peu à la musique de notre temps en loge, et je pense par exemple à Arvo Pärt.
Pour nous expliquer qui c'est.
Alors Arvo Pärt est un compositeur donc contemporain qui utilise vraiment tous les systèmes d'écriture et en particulier la musique avec l'utilisation de l'électronique, etc. C'est-à-dire avec des sons assez extraordinaires. Digne héritier, je pourrais dire, de Sibelius, d'autres compositeurs qui ont écrit aussi pour la maçonnerie. En fait, ça pose tout le problème de est-ce qu'il y a une musique effectivement propre à la maçonnerie ou pas. Et on peut dire que non, il y a des compositeurs qui composent, qui créent, qui utilisent ce langage-là, comme on pourrait utiliser la peinture ou autre chose, et qui composent, et à un moment donné, qui mettent leur œuvre au service d'un rituel ou d'une spécificité qui peut être réalisée. Mais ce n'est pas... Il n'a pas écrit que pour ça. Il a écrit des opéras, il a écrit des œuvres instrumentales, Arvo Pärt, beaucoup de musique aussi instrumentale et de musique de chambre. C'est donc pas une spécialité. Voilà. C'est en fait la musique qu'il peut composer, ce n'est que un iota de sa composition musicale qui est au service de quelque chose. Ce qui n'empêcherait pas d'ailleurs d'utiliser d'autres œuvres qu'il a composées, complètement étrangères au départ au souci maçonnique, et de l'utiliser en loge, bien
entendu. Oui, il n'y a pas de musique maçonnique comme il y a de la cuisine moléculaire.
Ah, voilà.
Il y a de la musique en maçonnerie. Il y a de l'illustration.
C'est ça. C'est un petit peu comme, on parlait de Mozart tout à l'heure. Mozart qui compose des symphonies, qui compose des opéras, qui compose de la musique religieuse. Ben, c'est toujours du Mozart. C'est avant tout du Mozart. Puis à un moment donné, quand il décide de mettre de la musique sur un texte d'une messe, en créant Kyrie eleison, Christe eleison, etc., il va utiliser peut-être quelques codes, parce qu'on a quelques petits codes d'écriture, mais à côté de ça, c'est d'abord de la musique de Mozart.
J'aimerais juste, si on pouvait ensemble, on en a parlé un petit peu en préparant cette émission, évoquer la place de la musique, je dirais, dans tous les espaces sacrés, y compris dans les temps les plus anciens. Tu nous as dit que, historiquement, dans toutes les formes de rituels qui ont existé, la musique avait déjà sa place.
Absolument.
Tu évoquais l'Égypte ancienne, par exemple.
Absolument.
Est-ce qu'on peut en parler deux minutes pour dire qu'en fait, ce mouvement de la musique qui accompagne les espaces sacrés ou les temps sacrés ou les rituels, en fait, ce n'est pas une nouveauté ou quelque chose qui est apparu récemment.
Non, justement, je peux vous lire justement un petit texte que j'avais écrit là-dessus qui disait que dans le rituel sacré justement de l'Égypte ancienne, la musique est déjà considérée comme une offrande spirituelle. C'est en cela où elle est importante. Indispensable pour mettre en œuvre un processus tout à fait précis. Et en fait, ce processus s'établit dans l'Égypte ancienne quand le pharaon vient à Thèbes une journée par an pour consacrer, donner des offrandes à Ra pour que le Nil déborde. C'est vraiment la quintessence d'un point de vue rituel. C'est peut-être la cérémonie la plus importante que fait le pharaon, parce qu'on dit que si cette cérémonie ne fonctionne pas, le Nil ne déborde pas et le peuple va être bien sûr affamé. Donc, il va être accueilli par les prêtres qui sont, eux, initiés. Seuls les initiés peuvent regarder le soleil, Amon-Ra. Et ils vont offrir des offrandes de deux types. La première, ce sont des offrandes matérielles. C'est bien sûr, on pose de la nourriture sur les tables pour offrir ce bien matériel. Et pour spiritualiser cette nourriture, on va demander à des musiciens. Et c'est eux qui font toute la cérémonie. Mais eux ne sont pas initiés. Ou bon, mais ils ne doivent pas voir ce qui se passe pour justement être dans la quintessence de leur création musicale. Donc on parle du mythe du musicien aveugle. On disait qu'on leur crevait les yeux de manière à ce qu'ils puissent exprimer leur art en toute intimité, dans leur propre intimité, de manière à pouvoir donner à leur art quelque chose, une quintessence absolue. On sait maintenant, en regardant tout à fait attentivement les fresques égyptiennes, qu'en fait, ils avaient des bandeaux sur les yeux. Et ça nous interroge pour nous.
C'est moins barbare déjà.
Oui, mais la place du bandeau.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que quand on est initié, ce bandeau, ça décuple tout compte fait un certain nombre de sensations, de sens, que d'une certaine manière, on est dans nos émotions. Et on peut se dire qu'une fois qu'on enlève le bandeau, qu'on a vu la lumière d'une certaine manière, eh ben ça y est, on revient dans quelque chose de cadré. C'est-à-dire que d'une certaine manière, nos émotions qu'on décuple, voilà, parce qu'on est dans le bandeau, on est bousculé, etc., pendant notre initiation, notre corps est donc quelque part en pleine émotion. On a également le toucher, bien sûr, avec le grand expert. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dès que le bandeau tombe, eh bien, ça y est, on devient dans quelque chose de verrouillé. Et ça, je crois que personne n'a travaillé cette notion d'émotion et qu'une fois initié, on ne laisse plus place d'une certaine manière à cette émotion qui rejaillit du corps, tu vois. Ce qui est important, c'est qu'on sait maintenant donc que ce bandeau, les musiciens l'avaient, donc on les voit. Et cette tradition du musicien, entre guillemets, aveugle, va se continuer, puisque par exemple, en Allemagne, en Autriche, quand vous allez dans des musées d'instruments, on peut entendre voir des viols de gambe qui ont une tête sculptée en haut de leur manche. Et les têtes sculptées ont tout un bandeau, ce qui prouve que le musicien, d'une certaine manière, pour être dans la quintessence de sa musique, pour vraiment la ressentir pleinement, doit être dans une espèce de contenu intérieur. Ce qui veut dire, pour conclure là-dessus, que la part invisible, c'est-à-dire le son qui est émis par les instruments, qui émane d'un objet tangible, c'est-à-dire le musicien, s'est interprété comme le symbole de la substance immatérielle, c'est-à-dire la nourriture spirituelle. Et la cérémonie ne peut s'effectuer pour le pharaon que s'il y a de la nourriture, certes, mais cette nourriture, elle est spiritualisée, cette nourriture, par la présence de la musique comme quintessence immatérielle. Donc en fait, la place de la musique est toujours comme étant porteur de quelque chose, qui est de lâcher des émotions, d'aller
d'accord,
au maximum.
D'accord. Christian.
Nicole, c'est ce que tu dis est parfaitement juste. Je dirais, le bandeau ne laisse persister que les sens lents.
C'est ça.
Le sens rapide, c'est-à-dire la vue, est complètement occulté.
Bien sûr.
Ce sont les sens à émotions qui persistent et non pas la vue.
C'est ça.
Maintenant, je voudrais te poser une question, puisque j'étais attentif à ce que tu as dit, et tu as mis deux mots en parallèle, en parlant de l'Égypte. Offrande spirituelle et cycle de vie. Et je voudrais que tu nous parles de passage de l'un à l'autre, du spirituel au cycle de vie.
Par rapport à la musique,
oui.
Justement. Ah, mais c'est capital. C'est capital parce que d'une certaine manière, c'est offrande spirituelle, c'est se dire la musique est indispensable à tout rituel, à tout objet de vie, de manière à, je dirais, être vivant. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne de la vie à l'être humain par la musique. Ensuite, les cycles de vie, c'est constater que à quel point on peut, je dirais, suivant les différents degrés de notre vie, la musique fait partie également de cela. L'adolescent, l'enfant, si je prends ce système-là, l'enfant, déjà va être dans un critère d'écoute où malheureusement dans les sociétés actuelles, on ne sait plus lui apprendre à écouter. Mais à écouter dans cette notion de spiritualisation de la musique, justement. Alors nous, on dit qu'il faut apprendre à écouter, c'est au niveau des apprentis, c'est la base, sauf qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire qu'écouter ? C'est pas simplement entendre. C'est simplement écouter. Alors, c'est très intéressant parce qu'au départ de la maçonnerie, au XVIIIe siècle, écouter, cela voulait dire entendre actuellement. Écouter, c'était entendre au sens large. Quand un certain général a dit « je vous ai compris », c'est-à-dire « je vous ai entendu ». Voilà, on était vraiment dans ce critère très très large. Et l'écoute, c'était vraiment écouter dans le sens très très large. Et maintenant, quand on dit en maçonnerie qu'un apprenti, par exemple, doit écouter, c'est-à-dire on l'entend dans le système détail, regarder, l'équivalent de regarder. Or, entendre à l'heure actuelle est l'équivalent du voir, sens large. Or, les choses ont complètement changé. Là aussi, quand nos anciens ont mis en place certains rituels au XVIIIe siècle, on n'était pas dans une utilisation de langage qui était celui qu'on a maintenant du XXIe siècle, par exemple.
Je voudrais justement rebondir, excuse-moi Christian, sur justement le langage. Car il faut savoir que le langage est notamment le prochain thème de nos rencontres écossaises. Et j'aimerais que tu puisses m'expliquer, tu es musicologue, tu es vraiment une spécialiste, la musique... Est-ce qu'on peut dire que c'est un langage ? Et si oui, comment il est structuré justement par rapport au langage, je dirais, d'une voix ? Finalement, une voix, c'est aussi de la musique quand elle parle.
Oui, mais le langage, c'est justement, va utiliser, entre autres, des timbres qui sont la voix, mais ce n'est pas un langage, qui vont utiliser la voix ou des instruments. Mais en fait, le langage, c'est la manière de construire. C'est la manière d'agrémenter les sons les uns par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait l'évolution des différents rituels, si je pense par exemple au rituel de l'Église protestante, qui est, comme chacun le sait, bâti en quelque sorte par Luther, qui était un très fin musicien, et quand il décide en fait de n'utiliser plus que la langue vernaculaire, la langue du pays, etc., traduire la Bible, je passe sur cela, mais en fait il va dire, et c'est très important, c'est que il ne faut plus utiliser le langage musical tel qu'à l'époque on l'utilisait. Je suis au début du XVIe siècle. Comment est-ce qu'on l'utilisait ? Eh bien, c'était fait, la musique était utilisée dans l'Église catholique, dans l'Église de Rome, uniquement par des professionnels. C'est-à-dire des maîtrisiens, des chanoines qui chantaient avec des instruments, l'orgue, etc. Et avec des constructions musicales très élaborées. Et tout cela a été fait pour, en quelque sorte, éblouir le pratiquant. Luther va aller dans tout à fait une autre démarche qui va dire « Non, moi je ne veux pas, je veux que tout le monde comprenne. » D'où l'utilisation de la langue vernaculaire. Mais en plus, je veux que tout le monde chante absolument en même temps. De manière à ce que tout le monde participe. C'est-à-dire que tout le monde puisse sortir son émotion de son corps en symbiose tous. Et lui va écrire les mélodies de 150 psaumes qui vont devenir le psautier réformé, qui est toujours d'actualité. Il écrit les mélodies. Ce qui fait que quand un pratiquant arrive au temple, eh bien, il sait quel numéro on va chanter. À force, il les sait par cœur et il peut chanter. Et ça, c'est capital parce que ça veut dire que du coup, je participe, je suis en symbiose avec les autres. Ma voix est l'un parmi les autres. Et ce qu'il demande après, c'est de dire, bon, alors on peut composer en dessous d'autres mélodies, en exacte homorythmie, mais et qui vont être chantées par les professionnels, mais cette homorythmie, eh bien, ça va être la base fondamentale de ce nouveau langage musical. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être, nous chantons tous en même temps le même texte. C'est-à-dire compréhension du texte. Je ne veux pas que le pratiquant vienne au temple uniquement pour être émerveillé par ce qu'il voit. Non, plus de décor, plus rien. Je veux qu'il participe. Je veux que dans son émotion, il la ressente dans son corps et que tout le monde chante en même temps le même texte. D'où, il crée d'une certaine manière, il fait que, et ça va se développer, l'écriture en chant choral, l'écriture en chorale, c'est de l'écriture qui va être associée à la musique réformée. Et on pourra en entendre un extrait, puisque je vous ai apporté, par exemple, un extrait qu'on peut écouter, de la Passion selon Saint Jean, de Jean-Sébastien Bach, dans lequel Justement, Jean-Sébastien Bach, dans cette passion, utilise le chœur sous deux formes. Une forme où le chœur va justement, si par exemple Ponce Pilate dit, qui est-ce que l'on va libérer, le chœur à ce moment-là va chanter Barabbas, Barabbas, c'est le peuple juif. Et juste après, un deuxième chœur va dire, et maintenant le peuple juif a choisi de libérer Barabbas. C'est-à-dire c'est une sorte de commentaire de l'action, complètement autre que les personnages qui sont en train de chanter, et c'est un choral.
Nous écoutons l'extrait. Bien, donc après avoir écouté cet extrait, je crois que Christian voulait intervenir.
Nicole, j'ai bien compris ce que tu distinguais. Je voudrais peut-être aller un peu plus loin. Je pense à l'Office des Ténèbres, enfin aux Offices des Ténèbres au pluriel. Et je pense qu'il y a un distinguo subtil qui s'effectue entre parole et langage.
C'est vrai que là, ce que fait Couperin, mais encore une fois, il reste dans le, c'est d'abord du Couperin que tu entends. Même si la portée, justement, de ce que tu écoutes est tout à fait magistrale, parce que c'est uniquement pour deux voix, par exemple, et clavecin, le contexte, c'est, enfin, c'est deux voix. Et c'est complètement dans l'esthétique catholique, c'est un petit peu ce que je voulais aborder après, justement. C'est-à-dire que le langage musical, à partir de ce moment-là, peut être fait également d'utiliser la voix dans son contexte merveilleux, c'est-à-dire les associations.
Je voulais déborder l'aspect sémiologique, je dirais, un petit peu détaillé du langage ou technique,
oui,
pour aboutir à la portée de la parole, ce que tu dis, ce qui se déclare en son cœur.
Absolument. C'est-à-dire que d'une certaine manière, une chose qu'on a bien compris, par exemple, dans le langage italien, dans la musique italienne, c'est que la langue italienne, elle chante déjà avant tout. C'est pour ça, d'une certaine manière, l'opéra ne pouvait être qu'italien. Et quand tu regardes à la fin donc du XVe siècle, contre la musique réformée, l'Église catholique, elle va dire, nous, on garde les professionnels, on garde la manière d'écrire, nous, ce qui nous importe, on garde le latin. Ce qui nous importe, c'est d'émerveiller. Et on arrive à la contre-réforme. Et de la contre-réforme naît l'opéra italien. Parce que justement, c'est utiliser la voix avec, dans toutes ses vibrations, dans la résonance d'un lieu, entre autres, qui venait d'être construit, qui est par exemple le l'église Saint-Pierre de Rome. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu te rends compte très vite que la langue italienne devient, tu la nuances à peine un peu, ça y est, ça devient du récitatif, ça devient de l'aria, etc. D'une certaine manière, tu n'as pas, ou peu, d'écrivains de pièces de théâtre. en langue italienne. À la même époque, en France, quelque part, à la fin du XVIIe siècle, et dans cette année, nous en parlons d'autant plus avec Molière, on a Molière, Corneille, Racine, c'est-à-dire que la langue française, nous, a peut-être beaucoup moins de nuances sur le plan, voilà, d'une espèce de langage parlé, tu vois, modulant. Et c'est vrai que le fait d'écrire pour la langue française, nous, on va bien aimer ce contexte de l'écriture. Alors que l'Italie, par exemple, dans la comédie française, c'est le texte, mais la comédie italienne, c'est surtout quelque chose de gestuel avec des voilà.
Et dans Molière, il y a des ballets, notamment. Mais là, on revient à la danse dont tu parlais tout à l'heure. Et c'est un phénomène de cours,
c'est
peut-être.
C'est ça, absolument. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, oui, c'est vraiment
c'est Lully,
le ballet de cours.
Ça
va être Lully. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Molière, qui est un homme qui a ce qu'il faut pour vivre, hein, voilà, il écrit. Mais après, dans la rencontre, lui, ce qui va être très, très intéressant, justement, c'est la rencontre entre le langage parlé en français, justement, cette manière d'écrire, plus le ballet de cour. C'est-à-dire le fait qu'on adore danser à la cour, des menuets, etc. Et en fait, il va y avoir une espèce de jonction qui va se passer, d'abord à Vaux-le-Vicomte, bien sûr, qui va se passer, cette célèbre où il écrit Les Fâcheux, et puis Lully est là, et puis en fait, un certain Fouquet est en train de montrer son château, et on sait bien ce qui va en advenir. Et du coup, le roi Louis XIV, qui a compris à quel point montrer son pouvoir, c'est utiliser tous les arts et ses artistes, il les fait tous venir à la cour, justement. Et en fait, cette conjonction entre le parler, la comédie, mais en français, donc, et le ballet, c'est-à-dire, enfin, je viens encore de faire des conférences sur les musiques de Molière, de se rendre compte qu'à l'heure actuelle, je dirais même à la comédie française, mais quand on entend certaines pièces de théâtre, comme le mariage forcé, etc., on a une heure de texte. Il nous manque une heure de musique. On n'ose pas faire cette musique de lui. C'est comme si, d'une certaine manière, voilà, on bouge, on est dans un texte, dans ce qui est maintenant du théâtre. Et la place de la musique, alors si on fait le Bonjour gentilhomme, on peut pas faire autrement que de faire la Turquerie de la fin. Mais en fait, il y a plus de trois quarts d'heure de musique qu'on coupe. Dans le Bonjour gentilhomme.
Mais comment tu expliques dans ces cas-là, à travers tout ce que tu évoques, on voit la place de la musique dans le domaine sacré, dans le domaine de la cour, par exemple, dans le domaine artistique. Et comment tu expliques qu'aujourd'hui, au rite écossais ancien accepté, énormément de loges ou de vénérables disent « il n'y a pas de musique au rite écossais ancien accepté, il ne doit pas y en avoir, il n'y en a jamais eu ». Comment tu expliques qu'il y ait ce phénomène aujourd'hui où la musique s'efface progressivement et de plus en plus de nos pratiques, alors que d'autres rites conservent une place de la musique, chantent même?
Absolument. Sauf que si on dit il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et si
c'est
on
pour
en...
ça que je parlais de briser quelques tabous en entrée d'émission.
Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on peut constater, c'est que des fois, on a quelques vénérables qui sont là et qui tiennent à ce que leur texte, voilà, ce qu'ils disent, faut pas interrompre, voilà, la parole, faut s'écouter, enfin, parler, etc. Et qui ne veulent pas laisser la place de la musique intégrer le rituel. Or, elle faisait partie du rituel, et ce, dès le début. Par exemple, dans les constitutions d'Anderson, qui sont donc publiées en 1723, je vous le rappelle, il y avait quatre chansons. À la fin, vous avez la chanson, donc le chant de l'apprenti, le chant du compagnon, le chant du maître et le chant des surveillants. Et on chantait. Et là, ça va devenir très intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce XVIIIe siècle? La musique va être utilisée absolument au XVIIIe dans les rituels, mais pas que dans les rituels. Et elle a, en fait, trois positions. Dans le cadre du rituel, on disait au XVIIIe siècle que dès qu'il y avait un déplacement dans l'appartement où se situait la tenue, dès qu'il y avait un déplacement, ce déplacement devait être accompagné par une marche. Ne pas oublier l'origine quand même militaire aussi, hein, de la maçonnerie. Donc on avait une marche. Et vous avez des compositions qui ont été réalisées. Je pense à la marche de Corrette, à la marche de Nodot, la marche de Blavet, qui sont des compositeurs du XVIIIe, qui sont élaborés justement pour qu'on puisse accompagner le déplacement en loge. Et on ouvrait les travaux avec la chanson du grade qui était convenue. Voilà, où on allait ouvrir. Alors, c'est vrai que qui appartenait aux loges, surtout des nobles, des meilleurs, voilà. Donc, il fallait peut-être les entraîner un petit peu, je dirais, avoir un peu le rôle de chef de chœur, comme je l'ai fait à Clermont-Ferrand. Et donc, très très vite, toutes les loges un peu partout en France, quand elles se sont ouvertes, elles ont été chercher le musicien local, qui était la plupart du temps le maître de musique de la cathédrale locale, donc quelqu'un d'un petit peu connu déjà, que l'on initiait, qui devenait maçon. Alors ce qui était aussi un peu intéressant, enfin petite boutade, c'est que du coup il ne payait pas de capitation, mais il ne pouvait pas prendre de plateau.
Aujourd'hui ce sont les restaurateurs qui deviennent maçons.
Tiens c'est drôle, hein. Nous passons dans... Nous passons dans un autre contexte. Mais à charge pour lui d'animer les tenues, ce qui veut dire que, eh bien, il faisait chanter les frères, justement, la chanson de la pente. C'est lui qui entraînait. Mais là où ça va devenir très intéressant, c'est que, du coup, on verra ça tout à l'heure pour les santé, c'est-à-dire qu'un nouveau genre musical va se développer, une nouvelle manière d'écrire la musique va se développer grâce à la musique qui va être composée. Donc déjà au préalable, moi ce que je vous propose, c'est d'écouter une marche qui est utilisée dans le cadre justement des tenues, qui s'appelle, c'est la marche des francs-maçons de Nodo.
Nous l'écoutons religieusement. Bien, nous reprenons. Nicole.
Alors voilà, donc en fait, en tenue, on avait ces marches. Et ne pas oublier non plus que, comme on allait d'appartement en appartement, il y avait, en fait, on utilisait quoi ? Quelques instruments de musique. Mais c'est vrai, des instruments de musique que du coup, on pouvait déplacer. Donc, c'était pas les cuivres, par exemple, qui étaient utilisés en plein air. Pas l'orgue, qui caractérise la musique d'église, comme de toute façon, on peut pas déplacer. Les instruments à cordes étaient un peu utilisés, et les bois. Parce que les bois, le hautbois, la clarinette, etc., on pouvait aisément déplacer. Ce qui fait que c'est tous ces instruments qui étaient utilisés pour justement jouer ces marches.
Si je peux me permettre de t'interrompre, juste un exemple personnel. J'ai visité il y a très peu de temps le Grand Temple à Montréal, où notamment est pratiqué le rite écossais ancien accepté. Et dans les temples consacrés, qui datent du début du XXe siècle, il y a des orgues, pour le coup, qui sont intégrés dans le temple, exactement comme dans une église. Et là, ce sont bien des orgues, c'est-à-dire qu'en fait,
absolument,
c'était intégré dans la construction dès le départ, on avait prévu qu'il y ait un organiste.
Mais tu as également le même exemple à Strasbourg, un temple qui a été construit par les Allemands, rue Joffre, à la fin du 19e siècle, au moment donné où Strasbourg était donc allemande, et tu as des grandes orgues qui viennent d'être entièrement restaurées, justement, et qui sont justement dans le temple.
Enfin, j'imagine que c'était un peu exceptionnel, c'était vraiment...
C'est exceptionnel, voilà, c'était exceptionnel. C'est pour ça que, on appelle Chenifi, on se déplaçait avec les instruments. Et puis ensuite, comme les tenues étaient très courtes, eh bien, on allait aux agapes. C'était le deuxième moment après les tenues. Et c'est là où, pour nous, c'est absolument capital, en tant que musicien, parce que il faut faire chanter les frères, comme moi je l'ai fait à Clermont-Ferrand. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, par exemple, on va demander au maître de musique, et le maître de musique va chanter, par exemple, un couplet. Et puis, ensuite, il va chanter un refrain. Et le refrain, tout le monde va le reprendre. Et c'est une forme musicale que nous, sur un plan du langage musical, on n'utilisait pas beaucoup dans la musique savante, entre guillemets, c'est-à-dire cette forme rondo qu'on appelle couplet-refrain. Voilà. Et en fait, on l'utilisait pas, ce qui veut dire que là où ça va être très important, c'est que cette nouvelle forme musicale va être tout à fait déterminante, parce que ça va faire obliger tous les frères à chanter et à chanter les refrains, d'où participation des frères.
Et peut-être qu'à l'époque, il y avait moins d'intervention, je dirais, sur le contenu d'une planche qu'on a entendue lorsqu'on se retrouve à l'agape, où aujourd'hui on donne beaucoup plus de place aux commentaires et à l'apport de chacun, et que du coup la musique s'est retrouvée peut-être reléguée et a fini par disparaître. Bah, je ne sais pas si à l'époque, il n'y avait pas que de la musique et des santé, et qu'il n'y avait pas une forme de travail pendant la gap. Je me trompe peut-être.
Il n'y en avait pas. Et c'est vrai qu'on...
C'était la même question.
Ah, on avait la même question avec Claude, d'accord. Désolé, Claude.
C'est pas grave.
On chantait effectivement les cinq santé. On chantait les cinq santé. Et c'est vrai que, aussi pour répondre à ta question, on peut dire qu'en tenue, on n'avait quasiment pas de travaux. Puisque on initiait apprenti, la tenue, un mois après, c'était les compagnons, deux mois après, c'était passé maître. C'est comme ça que Mozart a tout fait en quatre mois. Puis après, il y avait les élections, puis après, l'installation. Il y avait en gros cinq tenues par an. Voilà, au niveau des loges symboliques, hein, j'entends, parce que c'était le grade qui était plus important, 18e siècle, où on travaillait plus. Puis après, c'était se réunir, c'était en quelque sorte, oui, on chantait les fameuses cinq santé. Donc, cette forme musicale qu'on appelle une forme rondo, c'est-à-dire couplet-refrain, ce qu'on utilise à l'heure actuelle dans toute création d'une chanson, quel que soit le chansonnier.
C'est-à-dire, c'est le propre de la chanson, effectivement.
C'est le propre de la chanson. Eh bien, ça découle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que on a voulu faire chanter les frères qu'on s'est dit, on va pas leur faire chanter tout le répertoire, on va un petit peu le refrain. Et alors, au début, ce qu'on s'est dit, oui, mais enfin, il faut se créer du répertoire, parce que c'est quand même nouveau. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des œuvres qui sont comme ça, couplets, refrains? Et du coup, eh bien, on va apprendre au départ, en particulier en France, dans des opéras drameaux, dont en particulier un opéra qui s'appelle Les Fêtes d'Hébé, une musette, et cette musette en rondo, justement, où on a couplet, refrain. Et du coup, on l'a tellement en tête que du coup, ensuite, on va utiliser cette mélodie. Et nous, en langage musical, on dit qu'on fait une technique du timbre. On garde le timbre musical, la mélodie, et on change les paroles. Et cette musette en rondo, elle va devenir, en changeant les paroles, le chorus de tous les frères. Alors, je vous propose justement d'écouter la musette en rondo de Rameau, extrait de l'opéra. Et puis ensuite, le chorus de tous les frères, qui est justement la même mélodie, mais on a changé les paroles pour les adapter au rituel. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de musique maçonnique. Simplement, on utilise un langage, on change les paroles et on l'adapte.
Alors, on écoute Rameau. Alors, on vient d'écouter Rameau et ça a fait vibrer quelque chose chez Christian, il me semble.
Oui, Nicole, j'ai bien compris ce que tu as dit sur le chant, l'énergie, sur musette en rondo, sur cette partie, je dirais, quasiment presque physique d'ailleurs.
Absolument.
Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelque chose sur les oratorios maçonniques ou les concerts spirituels? Et d'ailleurs, peut-être même se poser la question, est-ce qu'on ne spiritualise peut-être pas par trop en maçonnerie?
Alors là, tu me poses une énorme question, je ne pense pas. Je pense que la spiritualité est le fondement de notre réflexion. Voilà, c'est, je dirais qu'on l'en soit pratiquant pas, enfin le problème n'est pas là. La spiritualité, c'est comprendre, dépasser un langage, c'est quelque chose d'absolument, enfin qui est le propre de notre travail de fond, je pense. Hein. Et avant de répondre sur ta question des oratorios, je voudrais aussi spécifier que justement pour faire chanter ses frères, donc du coup, on va créer un répertoire. Mais ce qui est important, c'est de se dire, on va l'écrire ce répertoire. Mais on ne peut pas le publier, parce qu'à l'époque, jusqu'en 1770, l'édition, c'est une charge royale. Donc il fallait passer par un éditeur qui dépendait de Versailles, c'était Ballard. Et les loges maçonniques en France vont décider de publier des petits livrets qui s'appelle des petits livrets, des chansons maçonniques. Alors,
les auditeurs ne peuvent pas voir, mais Nicole est en train de nous montrer ces magnifiques petits livrets.
Voilà, qui ont été réédités pour deux d'entre eux. Et en fait, dans lequel il y a justement les chansons avec la musique. Et en fait, ça va être édité dans les différentes villes de France. C'est-à-dire que du coup, pour permettre en fait à la loge, admettons à Bordeaux, à Nice, à Paris, etc., de pouvoir chanter, on fait ces petits fascicules et on fait fi de la charge royale d'édition. Ce qui est pour nous capital comme musiciens. Parce que c'est grâce à cela que l'édition musicale est libérée. C'est-à-dire que nous, musiciens, pour faire éditer une partition musicale, nous devions avoir l'accord de Monseigneur, etc. Vous savez, toutes les belles pages de présentation de tous les ouvrages du 17e, 18e, où avec l'accord de Monseigneur ou du roi, etc., on peut faire... Enfin, vous avez toujours cette page en frontispice. Et en fait, tout d'un coup, l'édition musicale se libère de cette charge-là. Et on va du coup imprimer à tour de bras ces petits fascicules. Et pour nous musiciens, ça va nous permettre par la suite de pouvoir être imprimés sans jamais pouvoir demander d'autorisation, etc. C'est tout à fait capital parce que ça va permettre à notre art de pouvoir se transmettre. Le problème de la transmission passe bien par l'écrit aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut transmettre justement ? Ben c'est parce qu'on fait ces petites partitions et qu'on peut les jouer. Donc en fait, ces petits fascicules vont se développer. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour nous musiciens, c'est un cataclysme, quoi. Parce que à l'époque, simplement un compositeur, je pense par exemple à Haydn, qui compose ses symphonies parisiennes pour l'orchestre de l'Olympie à Paris, dirigé par le chevalier de Saint-Georges, par exemple, il a fallu qu'il envoie ses manuscrits. On peut pas faire éditer, quoi. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment on est dépendant de ça. Donc en fait, l'imprimerie, tout d'un coup, nous libère complètement pour nous musiciens. Et c'est grâce aux loges maçonniques que nous musiciens,
extraordinaire comme histoire, j'avoue que là, on apprend quelque chose.
Voilà, clair. Et ça c'est très important, je dirais, parce que tout d'un coup, on est libéré et ces chansons, le fait donc d'y mettre, comme on vient de l'entendre, donc de nouveaux textes sur une mélodie connue, eh bien après, on va faire l'inverse. C'est-à-dire que vers les années 1780, vous avez un compositeur comme Méhul qui compose un hymne à la nature. Et puis, après, on transforme les paroles, au moment de la Révolution française, etc., et ça devient le chant du départ. C'est-à-dire, c'est l'inverse. C'est une chanson maçonnique, on garde la mélodie, on change les paroles, ça devient une révolutionnaire. Donc, je ne sais pas si tu vois le contexte. Au départ, on se dit, on veut créer un répertoire maçonnique. Donc, je pars d'art connu, parce qu'il me faut bien du répertoire. Je pars des musiques, je change les paroles, ça devient des chansons maçonniques. Puis ensuite, eh ben, on évolue, ça y est, on a plein de répertoires, eh bien, de chansons maçonniques vraiment créées, elles qui sont bien connues, je change les paroles, ça devient des hymnes révolutionnaires. En fait, tout le cheminement se passe. Et là, on se rend compte à quel point le langage musical s'adapte à tout. Tu vois? Et qui n'est pas uniquement que maçonnique. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il entretient, il spiritualise quelque chose, il donne une quintessence, si tu veux, la place de la musique, quel que soit tout ce que l'on peut faire du rituel, c'est vraiment d'être au service d'un texte, au service de quelque chose, qui le met en valeur, qui le transcende. C'est en ça, peut-être, qu'on peut spiritualiser quelque chose, si tu veux. Mais
c'est là, justement, je voulais venir sur le rôle de la musique. C'est pas donc qu'un rôle décoratif. Ça va plus loin que simplement de l'agrément. D'après tout ce que tu nous expliques depuis un certain temps, on découvre à quel point c'était vraiment quelque chose qui appartenait à la Réunion, à l'espace sacré. Ça devait aussi contribuer à créer quelque chose.
Absolument. Quand j'ai dit que pour de l'Égypte ancienne, c'était le symbole de la substance immatérielle qui permettait de spiritualiser le moment, je crois que c'est tout ça. Et si on ose dire qu'il n'y a pas de musique dans le RE2A, tu vois bien que c'est une hérésie, quoi, puisqu'il y en avait dès le départ, et que c'est en même temps, en tant qu'être humain, en tant que corps, c'est s'empêcher de se dire que d'une certaine manière, dans nos tenues, on va spiritualiser nos tenues par la place de la musique. Si on empêche ça, d'une certaine manière, on met dans nos tenues, si on veut pas de musique, on les laisse avec nos paroles, notre langage parlé, codifié par nos gestes, ce qui peut être dit, mais on n'en reste qu'à ça. Et en fait, on enlève toute expression d'émotion. Voilà. Et de ressenti. C'est comme si on empêchait tout ressenti, je pourrais dire. C'est quelque chose d'un peu troublant, moi, je trouve, parce qu'une spiritualisation, c'est justement aller dans cette acceptation du ressenti, cette acceptation d'une certaine manière de l'émotion et de ce qu'elle peut véhiculer. Si on veut tout brider, alors on bride également notre pensée, quoi, je pense, en fait.
Je crois que l'histoire de la société montre d'ailleurs une évolution parallèle. Sur l'opéra du début du 18e, on va dire que c'est le livret qui prime. D'ailleurs, même les honoraires étaient plus importants pour celui qui écrivait le livret que pour celui qui composait la musique. Et puis, on va voir arriver fin du 18e, ce qu'on voit dans les loges, c'est la musique qui prime sur le livret.
Ben, qui devrait.
Enfin, c'est ce qui s'est produit pratiquement. Avec le romantisme, c'est ce qui s'est produit.
Ah oui. Même pour Mozart. On parle des opéras de Mozart, on oublie de dire que les livrets, c'est Da Ponte, ou etc. Pour la flûte enchantée, c'est pas Schikaneder, mais c'est un travail de loge. Et c'est pas Mozart qui a écrit le livret. Or, on parle des opéras de Mozart, par exemple, tu vois. Et oui, t'as raison. C'est toujours une place où il faut remettre les choses à leur place. Mais quand tu dis que le librettiste était plus payé que le musicien, je vais te mettre une nuance quand même, c'était l'interprète aussi.
Oui, il y avait Farinelli qui touchait le plus gros de la somme.
Par exemple. Voilà, tu as tout compris. C'est effectivement ça. Mais c'est vrai que même avant, au XVIIe siècle, quand on allait écouter un opéra, d'abord on y allait dans les théâtres à l'italienne, on y allait en fait en fin de matinée, parce que tout devait terminer à 17h, hein. Parce que à cause des couvre-feux dans les villes, fallait que les gens rentrent chez eux. Mais on y allait surtout pour se montrer. Et pendant les opéras, je pense à Monteverdi, à Cavalli, en fait tous ces opéras du XVIIe siècle, on parlait, on mangeait, on n'écoutait pas. Et qu'est-ce qui était important? C'était uniquement quand vous avez le chanteur qui descendait des cintres accroché à ce qu'on appelle une gloire, c'est-à-dire une espèce de... Comment je pourrais dire?
De harnais, ou de
nacelle, tu vois, il descendait. Alors là, c'était Vigarini, qui était le grand chef d'orchestre des jeux comme ça, de moduler les décors. Etc. Alors là, c'était les effets spéciaux de l'époque, il n'y avait pas de télé. Alors là, tout le monde hurlait, c'était fantastique, il y avait le chanteur qui descendait, alors là, on était... on parlait, on chantait, on...
Comme quoi, Johnny Hallyday n'a rien inventé, hein?
Ah, et non. Mais par contre, lui, il respectait son public d'une manière tout à fait fantastique. Dans tout ce qu'il a fait d'un point de vue mise en scène et scénique, moi, j'ai une grande admiration pour lui. C'est quelqu'un qui a toujours respecté son public par rapport à sa prestation. Un très grand.
Claude, je crois que tu voulais, à ce stade,
oui,
dire un petit mot.
Oui, du rock'n'roll, bien sûr.
Ah oui, voilà, dès qu'on parle de rock, dès qu'on parle de Johnny.
Je voudrais revenir quand même un tout petit peu sur la place de la musique, j'insiste sur le mot place, dans un cadre initiatique. Parce qu'effectivement, à juste titre, tu parles d'émotion, mais je dirais que dans un cadre initiatique, ce qui compte aussi, c'est l'expérience. Et certains expliquent que pour pouvoir vivre cette expérience et que, justement, elle soit ensuite suivie d'un enseignement, il faut que nous fassions preuve d'une certaine vacuité. Alors, est-ce qu'une émotion mal placée ne pourrait pas être contraire à la vacuité nécessaire à l'expérience?
Moi, je pense déjà, tu parles d'initiation, il faudrait déjà un peu se respecter. Je vais te dire, j'ai, comme tu le supposes, j'ai tenu la colonne d'harmonie.
Ça, bon. C'est étrange.
Oui, je trouve aussi. Et je demandais toujours, lors des enquêtes, qu'on demande aux profanes quelles étaient ses musiques préférées. Et pendant son initiation, je ne mettais que de ça. Et je pense que là, tu vois, tu peux réfléchir. C'est-à-dire que de se dire, le profane, il est là, il a les yeux bandés, voilà. Il est dans le cadre justement de cette expérience, voilà. Et il entend quelque chose. Voilà. C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est pour moi. Pour moi, là, ce qu'on fait. Et ça me touche. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire, tu parles d'expérience. Je pense que si tout un chacun. Mettre une musique, c'est pas une musique. Allez, on va terminer au moment de la lumière, on fait ainsi par les Zarathoustra et on enlève le bandeau, on fait ça. La musique, elle doit être utilisée en fonction du moment, en fonction de la personne. Voilà. Et si tu mets je sais pas, la personne, si je me souviens d'une profane, elle disait j'ai joué tel morceau là, harpe, je lui ai mis ça au moment de elle pleurait comme une madeleine parce que elle c'était son morceau.
Oui, bien sûr.
Et tu vois, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire se dire la place de la musique, c'est pas de la refuser parce que c'est de la musique, c'est elle encadre les émotions, mais c'est l'utiliser dans un autre, justement dans l'écoute de cette personne. C'est se dire comment je la transcende, comment je lui permets de vivre ce moment. Elle sent qu'il y est unique ce moment. Il est encore plus unique parce que je mets sa musique, tu vois, et qui pour elle veut dire quelque chose, pour nous peut-être pas.
C'est pour ça que j'ai insisté sur le mot place.
Bien sûr.
Parce que c'est important.
C'est ça.
Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses et d'éléments qui ont été écartés, soit des rituels,
ouais,
soit des process que l'on peut accomplir, non pas parce qu'ils étaient destructeurs, mais qu'on ne savait pas les utiliser à bon escient.
Absolument.
Et que c'est vrai que très vite, ça peut devenir n'importe quoi.
Absolument.
Et être contraire.
Absolument.
Et c'est très, très compliqué de
Absolument.
Donner la juste place. Déjà, notre juste place, c'est pas simple, mais la juste place, effectivement, d'un apport comme la musique, c'est loin d'être évident quand même.
C'est pour ça, et je suis combien d'accord avec toi, la musique, tout un chacun la ressent comme mélomane. C'est le mélomane, c'est celui qui aime. Mais de temps en temps, laissons la place, la musique aux musiciens.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas qu'être que pour ma chapelle, hein. Mais je dis pas qu'on n'a qu'une vérité, mais le problème, c'est que quand moi j'utilise une musique dans un cadre donné, je connais le pouvoir de cette musique. Je sais pourquoi la mettre. Je sais pourquoi la mettre à ce moment-là. C'est-à-dire que, en tant que chef d'orchestre, je dirige le chœur en fonction, par exemple, de le chœur et l'orchestre en fonction du retour que j'ai dans la cathédrale, par exemple. C'est-à-dire, j'entends. J'ai 8 secondes d'écho, tout ça. Donc, je dois prendre un tempo. C'est-à-dire, celui qui dirige, le musicien, c'est celui qui vraiment sait comment avoir du pouvoir sur l'émotion des autres. Pour ça que à la fin d'un concert, j'avais mes chœurs qui me demandent toujours on était comment, et moi je leur dis je sais pas, et vous avez chanté, mais moi j'étais dans comment je les perçois, comment je vais les diriger, comment etc, comment le public perçoit. Je suis dans une espèce d'autre au-dessus du langage musical, c'est-à-dire, et c'est là où tu te rends compte que entre guillemets tu manipules, tu es dans le pouvoir de la musique, tu vois, comment manipuler le son, c'est-à-dire comment quand je vous ai dirigé à Clermont-Ferrand, en gros, c'était ça. Vous avez été surpris, mais ce qu'on fait, vous, voilà.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu as construit quelque chose à Clermont.
Bien sûr.
Tu ne nous as pas juste fait chanter quelque chose.
Non.
C'est que tu as structuré
oui.
la façon dont on devait chanter pour nous
sûr.
Amener quelque part.
Bien sûr.
Et ça, je pense que c'est ça qui a été le plus fort.
Mais
c'est qu'on s'est rendu compte qu'à la fin, on arrivait même presque à produire quelque chose d'audible, c'est-à-dire de bien.
Mais bien
c'est
sûr.
Ça qui était le plus surprenant.
Mais c'est même pas presque, c'était audible et c'était bien. C'est se dire que justement tout un chacun, nous avons nous-mêmes ce potentiel. Mais celui qui est en face, en quel cas celui qui dirige, nous, c'est notre métier de savoir amener les choses à ça. Et en fait, comme tu dis, c'est qu'effectivement, en même temps, on peut détruire, quoi. C'est sûr que le pouvoir de la musique peut être destructif, hein. Orphée, il y a laissé des plumes. C'est clair. Et on parlait du pouvoir de la musique. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'opéra italien a été créé en début du XVIIe siècle. Ce qui est étonnant, justement, c'est que dès la création de l'opéra italien, c'est l'Eurydice de Péri, Orfeo de Monteverdi, c'est tout sur le mythe d'Orphée. T'as 17 opéras au XVIIe siècle qui sont sur le mythe d'Orphée. D'une certaine manière, les compositeurs, par exemple Monteverdi, qui
Comment
dit
on explique
au duc
ça
de,
Comment on
de,
explique
au,
ça
au duc de Mantoue, Monteverdi lui dit, lui écrit vous avez le pouvoir de l'argent, etc. Moi, j'ai le pouvoir de la musique. J'ai le pouvoir, en écrivant, d'avoir une action sur vos émotions, de vous faire pleurer ou de vous faire rire. Et Monteverdi est parfaitement conscient de son pouvoir. Il dit, de toute façon, vous avez tout l'argent, etc. Vous n'êtes pas capable d'avoir du pouvoir sur les émotions, et même pas avec vos mots ni avec votre argent. C'est en ça où, en même temps, un vénérable dans une loge, on peut le comprendre quand il se dit « je veux pas de musique ». Tu vois ? C'est d'une certaine manière « je veux garder mon pouvoir ».
On voit bien ce que tu veux dire.
Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire...
Non, mais c'est exceptionnel parce que là, on se rend bien compte, justement, de ce pouvoir de la musique et donc, du coup, de ce niveau d'émotion qui a bien sa place dans une tenue aujourd'hui. J'espère que je ne choque pas
qui devrait.
Mes frères à côté du micro. Mais c'est vrai, en t'écoutant, moi, ça me parle de ce côté-là, effectivement.
Je dirais peut-être pas tout le temps.
Non, on est bien d'accord, dans certaines occasions. Tu on vois, parlait d'initiation tout à l'heure.
C'est ça, par exemple. Quand on nous demande de mettre une musique après une planche... Ou tu vois après alors en fin d'une cérémonie etc, mais qu'on laisse la musique prolonger une planche, enfin je veux dire c'est également une planche musicale, voilà, c'est quelque chose d'important.
Juste parole, moi je pense à Camilleri par exemple dans cette histoire là. Tu as parlé d'initiation, ce qui fait penser au mot artisan et artiste, à la liaison des deux, d'artiste et d'artisan. Je pense que c'est peut-être ce chemin qu'il faut employer. Alors, il y a des chiffres que tu cites qui sont d'ailleurs, qui nous font réfléchir en époque contemporaine. Tu dis à l'époque 50 000 maçons. J'ai regardé la population de la France, 28 millions d'habitants. Et tu dis 600 musiciens parmi les 50 000 maçons. Je crois que la proportion actuellement de vrais musiciens, j'entends pas de mélomanes ou de musiciens pratiquant la musique, a considérablement diminué. Ce qui explicite peut-être la part de la musique, que la musique voit sa part se réduire peu à peu.
Vous souhaitez entendre la réponse de Nicole ? Nous vous donnons rendez-vous dans la seconde partie de l'émission.